Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On peut pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncer, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de politique industrielle, d'inflation et de Lyndon Johnson. Joseph Robinet Biden Jr. a été élu en novembre 2020, alors que les États-Unis étaient sévèrement touchés par le Covid-19 et que la présidence Trump se terminait dans une ambiance crépusculaire.
Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Celles de ces manifestants survoltés, qui en a un, ont réussi à s'infiltrer dans le Capitole. Des scènes à peine croyables.
Et si vous avez un peu suivi la primaire démocrate qui s'était tenue dans les mois précédents, vous savez que Joe Biden n'était pas parmi les candidats les plus à gauche. Vice-président de Barack Obama, il incarnait plutôt une forme de centrisme rassurant, de retour à la normale après la dérive du parti républicain vers l'extrême droite. Mais pendant cette primaire, on a également vu des candidats résolument de gauche faire de bons scores, Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Le premier porte un discours de lutte contre les inégalités par le biais d'une fiscalité plus redistributive. Quant à Elizabeth Warren, elle s'est fait connaître pour ses propositions de démantèlement des grandes entreprises de la tech, les GAFAM. Et les propositions économiques de Biden, alors? Est-ce qu'elles étaient plus timides, moins radicales? Joe Biden va-t-il enterrer le néolibéralisme? En fait, il faut tenir compte de ce qui s'est passé en 2020 et du bouleversement que la crise du Covid a engendré dans l'économie américaine. J'en ai parlé avec François Gérolf, assistant professeur à UCLA et conseiller scientifique au CEPI.
Donc au départ, la campagne qui avait été prévue n'est pas forcément celle qu'il a fait au final. Et notamment, ce que les observateurs ont noté, c'est que ces promesses économiques ont probablement été radicalisées par la crise du Covid, qui l'ont convaincu d'avoir à la fois un plan de soutien à l'économie qui soit extrêmement ambitieux et aussi un plan de ce qu'il appelle la reconstruction qui soit ambitieux aussi et qui permet, si vous voulez, de faire repartir l'économie sur des bases nouvelles. On va dire, on voit un petit peu la crise du Covid et sa sortie comme un moment ou comme une opportunité, en quelque sorte, de recommencer à zéro et de revoir les choses qui, jusqu'ici, avaient été mal faites ou avaient abouti potentiellement à l'élection de Donald Trump, notamment ce qui, pour l'administration démocrate, était considéré évidemment comme un échec.
On va le voir dans cet épisode. En matière économique, Biden est prêt à aller très loin, dans une direction qui n'était pas du tout celle que préféraient les démocrates depuis les années 90. Je vous parle ici de déficit et de dette publique. Ils sont en train d'augmenter considérablement, alors que les démocrates y étaient plutôt allergiques. Dans les années de forte croissance, ils avaient à cœur de rattraper les déficits que leurs prédécesseurs républicains avaient faits à cause de baisses d'impôts trop généreuses. Mais dans ce domaine donc, Biden a déjà commencé à appuyer très fort sur l'accélérateur. Crise sanitaire oblige.
Le taux de chômage a explosé. La situation économique aux États-Unis s'est fortement dégradée. Et l'élection s'est produite dans ce contexte-là. Ensuite, l'élection de Joe Biden et son plan de soutien ont eu un succès très fort. Également, le taux de chômage aux États-Unis est revenu. Alors, non pas au niveau auquel il était sous Donald Trump en mars 2020, mais à un niveau proche, on va dire, même s'il reste encore du chemin à faire.
Par rapport à la situation de la France, il faut prendre en compte une différence cruciale. Les mesures de soutien aux entreprises ont été bien moins importantes au printemps 2020. Et ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont payé l'addition, dès le départ. On a vu le nombre de nouveaux chômeurs augmenter tellement vite en avril-mai 2020 que la crise des subprimes avait l'air très bénigne en comparaison. En 10 semaines, 40 millions d'inscriptions supplémentaires à l'assurance chômage ont été enregistrées. 40 millions. Alors qu'avant la crise sanitaire, le taux de chômage aux États-Unis était tombé à des niveaux historiquement bas. Il fallait donc, dans l'urgence, relancer les dépenses publiques pour que des millions d'Américains et d'Américaines ne tombent pas dans la pauvreté. et les premières mesures en mars 2021 ont été des chèques et des exemptions d'impôts pour les ménages, de manière très large. Ensuite vient le moment du plan Build Back Better, des investissements dans l'infrastructure pour 2300 milliards de dollars, avec des effets d'entraînement à plus long terme. Et il faut y ajouter le American Families Plan, pour allonger la durée de scolarité des enfants avant le primaire et des étudiants, et pour généraliser au niveau fédéral les congés de parentalité et l'assurance maladie. Ça correspond à 1800 milliards de dollars. Ces plans seraient financés par un relèvement des impôts des plus riches. Le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu passerait de 37 à 39,6%. Mais aussi par une fiscalité plus lourde pour les entreprises, l'impôt sur les sociétés augmenterait de 7 points à 28%. Et par d'autres mesures fiscales sur les revenus du capital, par exemple. J'en parle au conditionnel parce que c'est encore en discussion au Congrès. Et il faudra également financer une partie de ces plans par la dette publique. Il faut noter que dans ces mesures, on trouve une politique industrielle très explicite, contrairement, là encore, à ce que les démocrates avaient l'habitude de proposer. François Gérolf.
Et ça aussi, c'est un changement de paradigme, à savoir à la fois depuis Reagan, en gros, à la fois les administrations démocrates et républicaines étaient d'accord pour dire que la politique industrielle est une mauvaise chose, que c'est le marché qui devait décider quels étaient les secteurs de l'avenir. Et en réalité, sur ça aussi, les experts, ou en tout cas l'administration, les experts proches de l'administration ou proches du décideur, ont changé d'avis, ou alors les experts qui ont cette opinion sont plus écoutés. Et donc, il y a beaucoup de gens très favorables à la politique industrielle autour de Joe Biden. Et Joe Biden écoute aussi les syndicats qui, depuis longtemps, se plaignent du fait que tout un tas d'emplois industriels sont partis en Chine et que les États-Unis devraient faire plus de protectionnisme. Il y a notamment un laboratoire d'idées qui s'appelle le EPI, le Economic Policy Institute, qui est très proche des syndicats et qui est très écouté, savoir un de ses anciens directeurs et conseiller direct de Joe Biden, et qui pense que les États-Unis doivent être présents sur les technologies de l'avenir, en particulier la batterie électrique, et pas seulement dans la conception, dans la recherche et développement, mais aussi dans la manufacture de ces batteries électriques. Ils pensent qu'il y a une complémentarité entre production et conception. Et ça aussi, c'est une énorme différence avec ce qui s'est passé jusque-là, où les administrations successives voyaient partir les emplois manufacturiers sans grand regret, que ce soit au Mexique ou en Chine, et où les administrations n'ont pas fait grand-chose pour l'empêcher.
Dans ce domaine, il y a une continuité entre Biden et Trump. L'un comme l'autre font du protectionnisme, cherchent à protéger les emplois industriels américains de la concurrence étrangère et sont persuadés que la mondialisation n'est pas un processus paisible où toutes les nations s'enrichissent, mais plutôt une série de batailles commerciales qu'il faut remporter, notamment contre la Chine.
We're gonna deal with China effectively.
Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Est-ce que l'économie américaine est sortie de la crise ? Même si les plans de relance ne sont pas tous votés au Congrès, on va y revenir, les résultats macroéconomiques sont déjà très positifs. Le taux de chômage est redescendu à 5%, la croissance du PIB devrait s'établir à plus de 6% sur l'année 2021, et l'inflation repart à la hausse, ce qui ne manque pas d'inquiéter certains économistes d'ailleurs. On peut même se poser la question, est-ce que ce n'est pas un peu trop ?
Too much.
Premier point, ça va faire exploser la dette. Une dette qui représente l'équivalent d'une année de PIB, vous vous rendez compte ? Curieusement, ça ne semble pas affoler la Maison-Blanche. Et pour le comprendre, il faut regarder qui est aux commandes.
Comme vous savez, Larry Summers, qui était très influent dans l'administration Obama, est toujours critique et pense que l'administration Biden va trop loin. Mais c'est vrai que les experts qui conseillent plus directement Joe Biden, qui sont plus directement liés à lui, à la Maison-Blanche, pensent que la dette est largement un faux problème. Il faut aussi, pour ceux qui suivent un petit peu les évolutions de la théorie macroéconomique, il y a une théorie qui s'appelle la théorie monétaire moderne, qui a eu énormément de succès depuis quelques années. Et je pense que le revirement sur la dette n'est pas directement l'effet du succès de cette théorie monétaire moderne, mais c'est vrai que la théorie monétaire moderne a largement accompagné le changement de doctrine qui avait eu lieu en fait sous Donald Trump sans changement intellectuel majeur, mais qui est poursuivi effectivement sous Joe Biden Et ça, je pense que ça amène aussi un changement dans la théorie économique, dans la pratique, en tout cas, de la politique économique, qu'on peut, comme vous l'avez dit, rapprocher d'un changement de paradigme. Je pense qu'on peut aller jusque-là. C'est-à-dire que, et je pense que plus généralement, ce changement de paradigme, il est présent sur tout un tas de sujets. Comme vous disiez, d'ailleurs, l'administration démocrate, l'administration Clinton, était en fait très anti-dette, faisait très attention au déficit budgétaire. Elle avait même dégagé un surplus budgétaire à la fin de l'administration Clinton, et ça avait été considéré comme un succès. Et c'est vrai que les critiques de cette obsession de la dette se sont fait plus fort. Il y en avait en réalité sous l'administration Obama en 2008-2009, notamment du côté des post-keynésiens comme James Galbraith, etc. Mais la différence aujourd'hui, c'est que ça vient des autorités les plus hautes, ça vient de la Maison-Blanche directement.
De quoi parle François Gérolf lorsqu'il évoque la théorie monétaire moderne ? Ce qu'on appelle la MMT en anglais est porté dans le débat public par Stephanie Kelton, qui a conseillé Bernie Sanders. Si on doit résumer ce courant économique en deux mots, on pourrait dire que son idée centrale est qu'un État souverain imprime de la monnaie, la met en circulation, donc dépense de l'argent qui sert à investir, produire et consommer. Les impôts, ça sert à freiner l'activité économique en cas d'inflation trop importante. Vous avez besoin de relancer la croissance ? Imprimez plus de monnaie. Des bons du trésor ou des dollars, ça revient grosso modo à la même chose. Je vais me faire jeter des cailloux par les partisans de la MMT si je me contente de décrire cette théorie aussi vite. Mais la conclusion centrale en matière de politique économique, c'est « Peu importe la quantité de dette existante, continuons à relancer s'il le faut, y compris avec de la politique budgétaire. » Deuxième point dans le « un peu trop ». Est-ce que l'économie américaine risque la surchauffe ? C'est ce qu'ont affirmé des membres éminents de la profession comme Olivier Blanchard, Larry Summers ou Jason Furman. Mais il y a des raisons d'en douter, suivant le raisonnement de François Gérolf.
Donc sur le sujet de l'inflation, je vais prendre un petit peu un pas de côté peut-être et dire que je pense que l'inflation est un des sujets les plus difficiles pour les économistes et sur lequel on sait très peu de choses en réalité, je pense. Donc je pense que notamment la courbe de Phillips, il y a beaucoup de raisons de douter de l'existence de la courbe de Phillips. Donc c'est le lien qui est censé exister entre le fait qu'on aurait une baisse du chômage trop forte et une augmentation de l'inflation. C'est la raison pour laquelle jusqu'ici on se refusait à faire des plans de relance plus ambitieux, et notamment ce qu'on a appris de la présidence de Donald Trump, c'est que on pouvait diminuer le taux de chômage sous une valeur qu'on pensait avant être inflationniste sans déclencher les pressions inflationnistes qu'on pensait. Donc la question, c'est est-ce que ça va se produire cette fois-ci ? J'ai tendance à avoir une vision empirique et donc à penser qu'il n'y a pas de raison de le penser.
Comme d'autres économistes, François Gérolf observe que depuis les années 90, la courbe de Phillips s'est complètement aplatie. Autrement dit, on peut avoir des niveaux de chômage très faibles avec une inflation également faible dans les pays développés.
En réalité, je pense qu'on sait très mal ce qui produit l'inflation, et en particulier en sortie d'une crise inédite comme celle-ci, où on a une quantité d'épargne non encore consommée qui est assez gigantesque. On a des plans de relance aux États-Unis qui sont aussi gigantesques. Et donc, la somme de tout ça fait qu'on est dans une situation inconnue. Jusqu'ici, on a l'impression qu'à part sur les matières premières sur lesquelles, effectivement, l'offre et la demande jouent évidemment pour déterminer l'inflation de ces matières premières. Mais si on pense à une augmentation plus générale du niveau des prix, jusqu'ici, on a l'impression que le problème, il se place plus sur les quantités, à savoir on va avoir du rationnement, les gens vont pas pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent acheter, on va avoir du délai sur les approvisionnements, on va avoir des entreprises industrielles qui vont pas pouvoir produire parce que leurs fournisseurs ne pourront pas leur fournir les pièces. Et je pense que la surchauffe va se manifester beaucoup plus de ce côté-là que du côté de l'inflation, sauf dans quelques domaines dans lesquels les prix effectivement répondent très facilement au déséquilibre entre l'offre et la demande. On sait que le marché du pétrole notamment est un marché qui fonctionne comme ça, notamment parce que il est régulé par l'OPEC qui fixe les prix largement en fonction de qu'elle anticipe. Donc, je pense que sur ces domaines-là, va y avoir potentiellement des hausses de prix. En revanche, sur tout un tas d'autres secteurs et sur la plupart de l'économie, je pense que l'inflation va être largement transitoire et va revenir sur des niveaux tout à fait raisonnables assez vite. En revanche, pour décaler un peu la question, je pense que l'obsession sur l'inflation est une autre survivance du monde d'avant.
François Gérolf tombe d'accord avec la plupart de ses collègues sur un diagnostic assez humble. On ne sait pas exactement quelle sera l'inflation en sortie de crise, parce qu'on n'a jamais connu une crise de cette nature. Du coup, le principal problème n'est pas tant l'inflation que la perte de vitesse de l'industrie américaine, voire la désindustrialisation. Pour éviter cela, Biden a choisi de continuer la politique protectionniste de Trump. Ça n'a pas l'air bien neuf, mais ça correspond à un changement de vision du côté démocrate.
Je pense qu'autant sur le point de vue fiscal, etc., les États-Unis vont rester très inégalitaires, etc. En revanche, je pense que sur cet aspect de l'industrie, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est un point sur lequel, à mon avis, Joe Biden a une approche complètement différente, à savoir qu'il veut résoudre le problème des inégalités, non pas via la fiscalité, ce qui était la préférence des économies jusque-là, mais via la création de bons emplois, savoir d'emplois bien rémunérés, qui sont typiquement trouvés pour les gens qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures dans le secteur manufacturier, plutôt que de redistribuer a posteriori des aides publiques à ces gens qui ont été touchés par le commerce, et plutôt que de résoudre ce genre de problème par la redistribution, il préfère que les gens aient des salaires plus égaux avant redistribution, quitte à ne pas faire grand chose sur la redistribution. Et là encore, on passe dans un monde complètement différent, en tout cas pour ce qui est des économistes qui généralement considèrent qu'il vaut mieux laisser faire les forces du marché et tout redistribuer ensuite.
S'il y a un changement de modèle dans la politique économique démocrate, c'est bien celui-ci. Avant Biden, je ne me souviens pas avoir vu un président américain déclarer face caméra que les employés d'Amazon feraient bien de se syndiquer.
I made it clear when I was running that my administration's policy would be to support unions organizing and the right to collectively bargain.
Et l'idée selon laquelle il faut lutter contre les inégalités dès le moment où se partage la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les entreprises, ça, c'est novateur. Attendez, est-ce que c'est vraiment novateur ? Une politique industrielle qui veut faire des champions nationaux. Une course à la technologie contre une superpuissance de l'autre côté de l'océan. Des emplois industriels défendus par des syndicats pour former une grosse classe moyenne protégée. Une politique budgétaire accommodante, quitte à relancer l'inflation. Ben oui, on dirait les années 60. Et si Biden, en fait, ressemblait plus à Kennedy ou à Johnson qu'à Obama ?
C'est le retour à la case départ, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est pas du tout nouveau. Ça fait très vieille politique, comme vous dites. C'est ce contre quoi Reagan, Thatcher, etc. s'étaient battus en grande partie. Et quand on disait que le gouvernement était plus la solution, mais était le problème, on pensait à ce genre de politique industrielle. On pensait que le gouvernement n'allait jamais faire les bons investissements. Et c'est vrai qu'on est en train de partir à 180 degrés par rapport à ce discours. C'est un peu comme s'il y avait des cycles politiques, des cycles idéologiques qui duraient 30 ans, ou 40 peut-être, et qu'on était en train de voir un nouveau cycle qui recommence. Je pense qu'on est dans quelque chose de cet ordre-là parce que on commence à avoir un peu de recul et ça fait 10 ans que chacun des dominos tombe un par un et que on a l'impression d'être sur quelque chose qui est un peu inexorable. Je pense pas que ce soit une mode ou quelque chose de, enfin, ou en tout cas une mode qui soit passagère. Je pense qu'on est dans un nouveau cycle qui est un petit peu surprenant effectivement quand on connaît l'histoire parce que comme vous dites. Je suis entièrement d'accord, on a l'impression de revenir aux politiques des 30 glorieuses en France, si vous voulez, de reconstruction. On avait une politique de reconstruction après la guerre, et les États-Unis font une politique de reconstruction un peu comme s'il y avait une guerre, un peu comme si le Covid avait été une guerre, et reprennent un peu tout à zéro. Et je pense qu'effectivement, le Covid est un peu une excuse pour tout changer. Je pense qu'en réalité, le choc, on s'en est rendu compte avant. Je pense qu'en particulier, les événements qui sont passés au Capitole ont été très traumatisants pour les élites, notamment américaines. Et je pense qu'il y a la vision qu'il faut tout changer parce que sinon, on va devant des problèmes très, très importants et pas seulement des problèmes économiques. Je pense que ce qui s'est passé au Capitole est bien plus important que ça et que ce qui se passe actuellement au point de vue de l'économie, là encore, est assez indissociable de ce qui se passe du point de vue politique, sans parler, comme j'ai dit, de la montée de la Chine, qui est un rival géopolitique. Et Joe Biden parle de nouvelles guerres froides, et c'est un petit peu de la même façon que l'URSS, c'était un peu une excuse pour faire des investissements, de la politique industrielle dans tout un tas de domaines, pour essayer de se surpasser dans tout un tas de domaines. Et là, c'est un petit peu la même chose avec la Chine, c'est-à-dire que donc on va plus vers la Lune, mais on veut être le premier à faire la voiture électrique qui sera vraiment produite en masse. On veut être le premier dans les nouvelles technologies.
Finalement, si l'administration Biden parvient à faire passer ses différents plans de relance, et ce n'est pas gagné, il faut encore franchir l'obstacle du Congrès, on assistera à un revirement complet de la politique économique des démocrates et de la théorie économique qui la soutient. On va voir si l'administration Biden parvient à faire passer ses différents plans de relance. Ce n'est pas gagné, il faut encore franchir l'obstacle du Congrès. Mais dans ce cas, on assisterait à un revirement complet de la politique économique des démocrates et de la théorie économique qui la soutient. Fini la confiance dans le libre-échange, la société de la connaissance et l'idée selon laquelle même une société très inégale peut être riche si l'État redistribue ex post. Welcome back, le soutien public aux entreprises nationales et la politique de relance keynésienne. Et si c'était le début de la fin du néolibéralisme ? À suivre. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est présentée par moi, Emmanuel Martin. Cet épisode a été écrit par Marine Roux. Interview réalisée par Mathilde Jolin. Production et réalisation Marine Roux. Mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.